Merci de votre fidélité à Radio Mars. Merci de votre fidélité à Mars Africa tous les samedis entre 10h et 11h, heure de Casablanca, 9h, 10h, GMT. Première escale aujourd'hui à Bouïkoumbéna avec Élisée Onkpatine. Bonjour Élisée. Alors, rapidement, on va essayer de voir avec Élisée Onkpatine. Visiblement, il a du mal à nous entendre. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Amine Birouk et bienvenue à Bouïkon qui est à 130 km de Cotonou.
Et à 130 km de Cotonou, nous allons essayer d'analyser cette décision du comité exécutif de la CAF d'organiser la CAN 2025 au Maroc à cheval entre les années 2025 et 2026. Démarrage le dimanche 21 décembre 2025, finale le dimanche 18 janvier 2026. Est-ce que c'est une façon de limiter les dégâts par rapport à l'organisation de la fameuse Coupe du Monde des clubs au mois de juin et donc impossibilité de disputer la CAN en été?
Bien évidemment, dommage, c'est bien cela, c'est pour limiter les dégâts et c'est bien dommage aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations qui n'a toujours pas une date fixe. C'est puisque c'est de ça il s'agit, le Maroc étant déjà prêt, le Maroc qui est prêt, qui a déjà les infrastructures nécessaires qu'il faut, les infrastructures pour organiser une très belle Coupe d'Afrique des Nations, vous imaginez, après l'édition du Cameroun, on a vu comment le niveau a été haussé du côté de la Côte d'Ivoire et on imagine ce que nous allons vivre du côté du Royaume, vous imaginez. Et mais malheureusement, une fois encore, la date sera repoussée. On pensait que ce sera en juillet, à l'été où le temps fera très beau. Mais ce sera pratiquement en hiver, vous imaginez, cette fraîcheur. C'est vrai que bon, les joueurs seront habitués puisque la plupart de ces joueurs-là évoluent dans le championnat, dans les championnats européens. Donc, c'est la bonne nouvelle. Seulement que, ils n'auront pas le temps de bien gérer la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer dans la deuxième semaine du mois de décembre où les championnats battent le plein, notamment le championnat anglais et en février aussi après la CAN. Vous imaginez rapidement la Coupe du Monde qui sera disputée en Amérique du Nord, mais en Amérique, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc il y aura...
Il y a tout de même la possibilité, Élisée, de profiter des trêves de fêtes de fin d'année à l'exception du championnat anglais. C'est-à-dire que ça pénalisera un peu moins les clubs européens.
Des fêtes de fin d'année, ils n'auront pas, surtout les joueurs africains n'auront pas le repos nécessaire pour aller, en tout cas ceux qui seront qualifiés pour la Coupe du Monde, n'auront pas le repos nécessaire parce que juste après la fin des championnats, ils vont s'embarquer pour l'aventure du mondial qui aura lieu en Amérique du Nord. Donc, pas de repos. Une chose est sûre, on aura cette Coupe d'Afrique des Nations, même si la date a été décalée. L'autre chose, c'est l'état de santé ou l'état physique des joueurs africains qui seront qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en juin 2026.
Il y en a beaucoup qui reprochent à la CAF d'être un peu faible dans le rapport de force ou dans le bras de fer avec la FIFA, parce que c'est toujours la FIFA qui obtient gain de cause. Est-ce que ça aurait été le cas, par exemple, si l'euro avait été placé à cette date-là en 2025?
On sera toujours dans les six. La preuve, c'est en plein championnat que la Coupe du Monde des clubs se dispute. Depuis que le format a changé, puisque avant c'était la Coupe intercontinentale entre le vainqueur de la Libertad, de la Coupe Libertadores et le vainqueur de la Ligue des Champions. Depuis que on a inclus les autres confédérations dedans, eh bien, ça se joue. Si ça ne se joue pas en fin d'année, en décembre, ça se joue pratiquement entre début février et fin février. Donc, c'est en plein championnat que la Coupe du Monde des clubs se joue. C'est vrai, puisque comme je l'ai dit, on sera toujours dans les six. Et la Copa América aussi, puisque bon. On peut, si les gens tiennent de pareils propos, ils ont forcément leur raison. Mais à vrai dire, c'est vrai, puisque la CAF manque un peu de rigueur. Et c'est pour ça, en début, je disais, la Coupe d'Afrique des Nations n'a toujours pas une date fixe. Et c'est ce que nous déplorons. On aimerait avoir une période fixe. Si c'est en janvier, disputons-la en janvier. Si c'est en juin, disputons-la en juin. Mais malheureusement, c'est à cause de ce mondial à 32 clubs, mondial des clubs à 32 clubs, donc la CAN n'aura pas lieu en été. C'est bien dommage. On aimerait avoir cette compétition en juin-juillet du côté de Maroc.
Pour terminer, Élisée, classement FIFA avec un changement de podium africain, une chute pour le Mali, on en parlera de notre ami Idrissa Niono, surtout la belle percée du Bénin suite à ses deux victoires, et notamment contre le Nigeria en élimination en éliminatoire de la Coupe du Monde.
Oui, il y a très longtemps que cela ne s'est pas produit. Et le Bénin qui prend 6 places et qui est désormais dans le top 20 du classement africain, c'est énorme. Ça pourra beaucoup jouer en notre faveur pour après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura le Maroc, le Bénin sera dans quel pot, parce que on avait peur, puisque quand vous allez vous retrouver dans le pot numéro 3, vous imaginez les équipes que vous allez affronter. Donc aujourd'hui, si le Bénin fait un bond de 6 places et se retrouve pratiquement dans le top 20, c'est une très bonne nouvelle. Là, on pourra gérer et on va continuer par travailler, puisque comme je l'ai dit samedi passé, on ne va pas dormir sur ces deux résultats. On a compris maintenant que l'équipe a commencé par évoluer, que l'entraîneur a commencé par avoir une balle au sein de son équipe. Donc, travaillons, pourquoi pas se retrouver dans le top 10, parce que c'est un rêve, puisqu'il y a très, très, très longtemps que le Bénin n'a plus connu un classement pareil. Ça montre clairement que si vous voulez évoluer, il faudra travailler, avoir de belles performances. Et ces deux performances, battre le Rwanda et surtout le Nigeria, c'est une première, ça nous a beaucoup aidé. Donc, en tout cas, on attend le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu à Johannesburg, du côté de l'Afrique du Sud. Ce sera dans 2 mois.
Ce sera dans quelques jours, plus exactement. Merci beaucoup, Élisée Onkpatine. Il est 10h10 à Casablanca, 9h10. Nous allons passer à une deuxième escale et nous allons rester en Afrique de l'Ouest, normalement, du côté de Dakar, avec notre ami Bakary Cissé. Bonjour, Bakary.
Bonjour Doyen, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Dakar.
À Dakar où il fait bon, où il fait beau comme à chaque été. Alors on va bien évidemment nous pencher un peu sur ce communiqué de la CAF, réunion du comité exécutif, oui. Où on a enfin levé un doute qui subsistait quant aux dates des CAN masculines et féminines. Par rapport à l'idée de disputer la CAN à cheval sur 2 années, décembre 2025, janvier 2026, est-ce que c'est une bonne idée? Une fausse bonne idée? Est-ce que la CAF a limité les dégâts par rapport à sa compétition majeure après l'organisation de la Coupe du Monde des clubs en été?
Justement, je pense que, comme le disent les Français, à défaut de merle, on mange des grives. Donc, au jour d'aujourd'hui, la CAF a sauvé, n'est-ce pas, sa saison, parce que effectivement, la CAF est sous tutelle de la FIFA. Aujourd'hui, que la FIFA a choisi ces dates pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Évidemment, à mon avis, la CAF était obligée de décaler un tout petit peu, n'est-ce pas, son rendez-vous continental. Le biennal du football africain, oui, qui se jouera au Maroc après 1974, si mes souvenirs sont bons. Depuis 1974 et 1988 que le Maroc a fini.
En 74, c'était en Égypte, hein?
Oui,
1988,
la dernière compétition que le Maroc a organisée. C'est vrai qu'en 2015, elle devait organiser, mais cette situation de Ebola a fait que les autorités footballistiques africaines ont jeté leur dévolu quelque part. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que ce serait très bien. Au mois de février, au mois de janvier, au mois de décembre, il fait très beau au Maroc. C'est vrai que ça fera très froid pour nous les Sahéliens, mais quand même pour les footballeurs, c'est une bonne date, à mon avis. Maintenant, la balle est dans le camp des Marocains, à eux vraiment de jouer le jeu pour que la fête reste belle. Parce que le Maroc aujourd'hui, n'oublions pas que le Maroc a signé plus de 30 conventions de partenariat avec les différentes fédérations. Le Maroc aujourd'hui joue ce rôle important, n'est-ce pas, dans l'échiquier footballistique du Sénégal, parce que il est aujourd'hui la base arrière de beaucoup de sélections africaines. Donc aujourd'hui, je pense que tous les Africains se sentiront très bien chez eux au Maroc.
Et puis ça aura l'avantage de ne pas trop contrarier les clubs européens, puisque ce sera en période de fête de fin d'année, à l'exception du championnat anglais.
Je le disais hier à un confrère que cette date-là me paraît excellente. Je l'ai même dit à 2 ou 3 internationaux avec qui j'ai échangé sur la question, parce que ça coïncide à la période de trêve en Europe, et aujourd'hui, les joueurs africains évoluant en Europe viendront à la compétition l'esprit tranquille, parce que ils ne seront pas sous l'emprise ou sous le dictat des clubs, parce que derrière, il faut pas oublier, parfois, beaucoup de joueurs africains au retour de la compétition, ils perdent leur place parce que, comme le disent les Français, celui qui va en guerre perd sa place.
Eh ben oui, celui qui va à la chasse perd sa place, Bakary Cissé. Il y a un joueur sénégalais qui en ce moment a, je dirais, le curseur avec le doigt levé vers le haut. Il s'agit de Boula Idia qui, après de très belles prestations, serait dans le collimateur ou dans le viseur d'un grand club de Serie A italienne.
Oui, Boula Idia, il a vécu une année très compliquée avec Salernitana. Quand il partait là-bas, il ne s'attendait pas à vivre un tel scénario. Mais les circonstances du moment ont fait que Boula Idia est passé de héros à zéro. Aujourd'hui, que la Lazio a compris quelque part que c'est un très grand footballeur, un attaquant qui peut jouer comme attaquant de rupture, qui peut jouer aussi comme excentré. Ils ont jeté leur dévolu sur lui. Certainement, ils vont casser la tirerie en débloquant 15 millions d'euros pour s'offrir les services de ce Sénégalais qui a non seulement manqué au Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations parce que il était blessé, mais qui aujourd'hui lors des derniers matchs du Sénégal avec les résultats mitigés n'était pas là avec Sadio Mané. Mais je pense que Boulaye aujourd'hui on lui tend une autre perche et certainement il va vraiment la saisir pour continuer à faire vibrer, n'est-ce pas, les supporters sénégalais, mais aussi à faire vibrer les filets en Europe.
Alors on va parler un peu d'Omnisport à 5 semaines des JO de Paris. Quelles sont les chances de médaille du Sénégal? Le Sénégal qui dans son historique
des
participations aux JO n'a qu'une médaille olympique. C'est un paradoxe. Hein.
Oui, le Sénégal sera bel et bien parmi les pays à concourir pour une médaille olympique à Paris. Il faut dire que nous avons nos chances avec des athlètes comme Louis Mendy sur le 110 mètres et Babacar Diop et Idrissa Seck au taekwondo. Et au canot kayak, effectivement, nous avons Kombe Seck et Yves Bourgis. Donc, ils vont défendre les couleurs nationales et je pense que tous ces 5 athlètes auront leur chance, n'est-ce pas, en France, à Paris, auront leur mot à dire dans ces Jeux Olympiques Paris 2024.
Et pour terminer, mon cher Bakary, un petit clin d'œil, un sujet du baccalauréat marocain, épreuve d'anglais, où le nom et l'œuvre de Sadio Mané est cité. Je pense que c'est une belle allusion, sympa, à tout ce que fait Sadio Mané. Justement, quels sont les échos au Sénégal? Comment on a reçu ce genre de, je dirais, de clin d'œil?
C'est très sympathique, il faut le dire, de la part de du ministère de l'éducation du Maroc, parce que effectivement ça prouve que les footballeurs, comme disait Pape Diouf, le football c'est bien plus qu'un jeu. Donc ça prouve que eux aussi ils ont leur mot à dire dans le développement de la société. Si aujourd'hui Sadio Mané met en place, n'est-ce pas, toutes ces infrastructures pour que son village natal qui se trouve au fin fond de Dakar, au fin fond du Sénégal, à 575 km de Dakar, ça prouve carrément que ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, mérite du respect. Et c'est aussi un exemple qu'il donne. Et le Maroc aujourd'hui a montré à la face de l'Afrique qu'il reste, n'est-ce pas, ce grand pays qui a l'attention, qui garde une attention particulière, n'est-ce pas, à tous les pays frères. Parce qu'aujourd'hui, Sadio Mané, tout le monde sait qu'il est dévoué dans le social, tout le monde sait qu'il est dévoué dans la religion, tout le monde sait qu'il aime bien son pays, mais il aime encore bien, n'est-ce pas, son village. Donc si le Maroc parvient à donner ce sujet de bac en anglais pour ça, concernant Sadio Mané, je vous assure, moi qui suis très proche du joueur, il a été très 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 touché et cela a eu un écho très favorable au Sénégal. Et comme je le dis, c'est un bel exemple vraiment que le Maroc a donné, n'est-ce pas, aux autres pays africains, mais surtout un signal fort que le Maroc a donné aux sportifs, mais surtout aux footballeurs africains.
Merci infiniment, mon cher Bakary Cissé, pour ce moment de partage. Nous avons beaucoup de choses en commun avec le Sénégal, et notamment chez Sidi Ahmed Tidiane, beaucoup de Sénégalais viennent à Fès en pèlerinage. Ils font le petit pèlerinage du côté de Fès. Merci beaucoup, Bakary Cissé. On se retrouve très très bientôt, cher ami. Il est 10h18, presque 19 sur Radio Mars. Il y a encore d'autres étapes que nous allons accomplir dans quelques instants. Nous partons du côté du Cameroun avec David Ayengué. Bonjour David.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars.
Alors c'est toujours un plaisir d'accueillir nos amis camerounais, mais l'actualité n'est pas très sympathique en ce moment au Cameroun, puisque Samuel Eto'o est dans le viseur de beaucoup de clubs. On parle d'un nouveau désaveu, du football ou de la nomenclature du football camerounais, notamment des arbitres. Quid de cette nouvelle affaire ou de ce nouveau petit scandale?
Oui, il faut dire que moi j'aurais aimé, hein, Amine, qu'on commence par les dates de la Coupe d'Afrique des Nations quand vous les programmez en plein décembre, mais on va revenir peut-être dessus. Bonjour le Maroc, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Et oui, au Cameroun, il y a des foyers de tension dans tous les domaines, dans tous les coins de la Fédération camerounaise de football. Et bien, cette semaine, ce sont les arbitres qui ont décidé de faire siffler mort. Pourquoi? Eh bien, parce que ça fait quelque temps qu'ils n'ont pas reçu, selon eux, leurs émoluments pour les matchs qui se sont déroulés pour les championnats qu'ils ont accompagnés. Alors, et vous pouvez bien comprendre que la politique de remise sur le droit chemin de la professionnalisation à tous les niveaux de la Fédération camerounaise de football amenée par le président de la Fédération, Samuel Eto'o, n'est pas pour avoir son dénouement demain. Donc on est régulièrement dans des foyers de tension. Quand ça ne boue pas de ce côté, ça boue de l'autre. Eh bien, ce sont les arbitres qui, eux, sont entrés en jeu pour revendiquer leur prime.
Alors, mon cher ami, je sais que tu es familier du Maroc, que tu suis de très près l'actualité de la CAN. D'ailleurs, petite interrogation, combien de CAN David Eyeng a couvert? Donc, on aura la réponse dans quelques instants. Mais mon cher ami, que penses-tu justement de ce changement de date de la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Elle sera à cheval entre deux années. Fin 2025, début 2026.
Je suis quand même, quand j'ai vu que la CAF avait finalement statué sur entre le 18 janvier, le 18 décembre
21 décembre et le 11 18 janvier. 21 décembre entre 18 janvier.
Entre le 21 décembre et le 11 janvier.
Et 18 janvier.
C'est quand même limite.
18 janvier.
Limite parce que nous avons été au CHAN en 2018 au Maroc, et je sais que nous avons beaucoup souffert de la température puisque on était tout le temps à l'intérieur de notre hôtel. C'était difficile de sortir et on faisait seulement le minimum. Donc, je me demande quelles sont les conditions dans lesquelles toute l'Afrique va se déplacer pour venir au Maroc. On espère simplement, et à cette époque-là, c'était entre le mois de janvier et le mois de février. Je me rappelle que j'avais clôturé cette fois-là par le marathon de Marrakech et on était encore dans 4 degrés au matin du marathon de Marrakech. Donc, je suppose que ça devrait être plus lourd encore, plus fort, plus difficile au mois de décembre de ce côté-là. Ben, combien de CAN David Eyeng a déjà couvert? Exactement 10 CAN. 10 CAN depuis que je fais le tour de l'Afrique, sans compter les championnats d'Afrique de Nations, c'est-à-dire les CHAN, sans compter d'autres compétitions continentales qui concernent d'autres disciplines sportives. Donc, je dis que c'est quand même compliqué, peut-être. Peut-être pour d'autres confrères qui viennent de la Tunisie, de l'Égypte, du Maroc, de l'Algérie, ce sera un peu plus facile pour eux. Mais je doute fort que l'Afrique subsaharienne ait un engouement comme celui qu'on voit très souvent au moment où la CAN se joue en été. La CAN en hiver, c'est quand même toujours un débat qu'on n'a pas terminé. Et vous savez bien que c'est la FIFA et ses compétitions de clubs qui nous imposent ça, et on est simplement désolé de voir que on est obligé de suivre la CAN entre décembre et janvier au Maroc. Ce sera vraiment limite. C'est ce que nous avons pensé, hein, à ce moment où les dates ont été arrêtées. On s'est dit que ce sera quand même compliqué. Et je vois déjà quelques désistements parmi les confrères du Cameroun.
Ah ben, venez nombreux, arrêtez de vous faire du moron. Espérons pour atténuer le froid qu'il pleuve un tout petit peu davantage. Parce que quand il pleut ici, il fait moins froid. Et donc, et dites-vous que les fêtes de fin d'année au Maroc sont très agréables, surtout si le Cameroun se retrouve dans le groupe de Rabat ou de Casablanca ou de Tanger. Là, vous régalerez. Donc, ne vous inquiétez
non,
pas.
Non, je sais. Venez, moi, je n'ai pas. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je souhaite simplement que mon pays soit qualifié. Et que la fête soit totalement belle, quoi, parce que c'est une CAN que le Cameroun devrait pouvoir gagner, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de CAN. Nous devons gagner la CAN. Ça fait 2017-2025, ça fait 8 ans. Il faut qu'on reprenne notre trophée.
Ah ben, les Camerounais parlent d'un trophée qu'ils ont perdu depuis 8 ans. Que dire de ceux qui ne l'ont pas vu depuis près de 48 ans? Allez, merci beaucoup, mon cher David Eyengue. Nous aurons d'ailleurs tout à l'heure un autre son de cloche du Cameroun avec William Chango. Et ce sera après la pub.
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Morocco Today Forum, la conférence internationale du groupe Le Matin, revient pour sa 7e édition sous le thème « Vision d'un roi, l'Afrique Atlantique pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère » en partenariat avec l'Agence marocaine de coopération internationale et la région Dakhla Wad Dahab. Cette rencontre se tiendra le vendredi 5 juillet 2024 au Palais des Congrès de Dakhla. Rendez-vous sur MTL.
Un événement en partenariat avec Radio Mars.
Toujours avec vous, toujours fidèle au poste de l'émission Mars Africa tous les samedis sur Radio Mars. Il est 10h25 à Casablanca, 10h25 exactement également à Tunis. Ahmed Adala, bonjour.
Bonjour cher ami, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Les fans des Aigles de Carthage sont fixés, ils connaissent la date de la CAN 2025, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Est-ce qu'il y a des échos du côté de Tunis par rapport à cette réunion du comité exécutif et cette décision qui nous permet d'avoir un minimum de visibilité par rapport à une compétition qui devait avoir lieu initialement en été?
Il y a une petite déception par rapport à la date choisie. Déjà, on sait tous que ça va créer un problème avec la Coupe arabe qui est parrainée par la FIFA, qui devrait avoir lieu au mois de décembre au Qatar. Donc, on va attendre la décision par rapport à la Coupe arabe, qui, rappelons-le, elle est parrainée déjà par la FIFA, mais aussi il y a le prize money qui est très important pour les sélections arabes. Après, c'est une première, je pense, si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on va disputer une CAN durant le mois de décembre. On va voir ce que ça va donner, mais on a pris l'habitude que cette CAN, elle est délocalisée, soit on change tout le temps de son timing. Après, la CAF a l'habitude de s'aligner aux décisions de la FIFA. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais par contre, il y a le point plutôt positif qu'il va faire très beau au Maroc entre le mois de décembre et le mois de janvier.
Il va faire bon et ça arrangera les joueurs d'Afrique du Nord. On parle également de ce championnat tunisien qui vit ses dernières journées. Visiblement, la logique est respectée. Il n'y a pas de gros changements, surtout pas de gros suspense.
Bon, le championnat a pris fin, un très long championnat. L'Espérance a été sacré champion de Tunisie pour la 33e fois, après une seule saison ratée, là où la saison passée, on se rappelle que l'Étoile avait gagné le championnat. L'Espérance revient au podium. Derrière, il y a, ce n'est plus une surprise, hein. C'est un club qui est stable depuis quelques années, l'Union Sportive Monastérienne qui va disputer la Ligue des Champions, le CSS qui revient sur la scène continentale et va participer à la Coupe CAF. Après, on va attendre la 4e place, on va voir qui va remporter la Coupe pour jouer et disputer la Coupe CAF avec le club sportif sfaxien. La déception est les deux grands clubs, l'Étoile sportive du Sahel qui avait fini avant-dernier et le club africain qui avait fini dernier au play-off.
Pour terminer cette actualité tunisienne, on parle des JO. La Tunisie a souvent de légitimes ambitions, notamment en natation. Elle espérait peut-être briller en tennis, mais on a eu droit à deux forfaits surprenants, notamment celui de Oun Jaber, qui a préféré privilégier sa carrière et ses ambitions pour Wimbledon, par exemple.
Pas tout à fait. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Amine. On commence par la déception par rapport à Ahmed Hafnaoui, qui a passé par une saison très, très difficile, une année scolaire très difficile aux États-Unis, liée aux événements de Gaza. Il a publié une vidéo pour supporter le Gaza. Apparemment, ça a eu un impact sur son avenir. Il est revenu en Tunisie. Il a changé de faculté et là, il est toujours en Tunisie. Il n'a pas effectué les préparatifs. Donc, il sera à 90,99%, même si je pourrais dire qu'il sera à 100% selon le comité olympique ici. Il sera un forfait pour les JO. Après, je suis pas vraiment tout à fait d'accord avec vous par rapport à Hans Gebre. Hans qui passe également une saison très compliquée, des blessures répétitives, et elle a expliqué que voilà, là elle se prépare à disputer le Wimbledon. Elle a déjà entamé sa saison sur le gazon. Elle a déjà disputé le tournoi de Nottingham. Là elle dispute le tournoi de Berlin, l'Open de Berlin sur gazon, Wimbledon sur gazon. Après, si elle va changer de surface, ça aura un impact sur son genou. Elle qui souffre de son genou depuis plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années, donc elle avait peut-être choisi de ne pas représenter, de ne pas disputer les JO pour ne pas avoir une déception, que plutôt privilégier sa carrière et disputer Wimbledon.
Je rappelle que c'est très difficile de passer du gazon à la terre battue en termes d'appui, et ça peut gêner le genou effectivement de Hans Gebre. Mais Rafael Nadal par exemple, qui a beaucoup de problèmes de genou, a préféré faire l'impasse sur Wimbledon pour pouvoir se consacrer à son dernier rêve olympique.
C'est pas le même style. Rafael Nadal c'est un spécialiste de terre battue, donc c'est tout à fait normal, et en plus il est en fin de carrière, il ne faut pas l'oublier, ami.
Hans Gebre ne l'est pas. Merci beaucoup mon cher ami. 10h30 sur Radio Mars. On va retrouver le Cameroun avec William Tchango pour parler justement de ce bras de fer entre les arbitres et Samuel Eto'o qui accumule un peu les casseroles, les pépins, les conflits. Bonjour William, quid de cette nouvelle affaire, quid de ce nouveau scandale?
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs. Alors cette greffe des arbitres est la preuve, s'il en était encore besoin, que le football camerounais va mal. On ne serait pas en train d'exagérer si on disait même que ce football-là, il est aujourd'hui à l'agonie, parce que ce n'est pas, rappelons-nous, ce n'est pas la première fois que les arbitres qui sont censés être à l'abri du besoin dans un championnat, c'est pas la première fois qu'ils manifestent au Cameroun. Ils avaient déjà manifesté, je crois, l'année dernière avec les arbitres de la Ligue régionale du centre qui étaient allés manifester devant le siège de la Fédération camerounaise de football pour revendiquer un certain nombre d'impayés. Aujourd'hui, ce sont les arbitres de la région du littoral qui passe à l'action et qui décide ainsi d'arrêter un championnat déjà qui était au rabais, parce que voyant le calendrier, voyant le temps passer, les autorités, les dirigeants de cette ligue-là avaient décidé d'organiser un championnat seulement en phase aller. Donc il y a déjà que quelques mois seulement après l'arrivée de l'exécutif actuel à la tête de la Fédération camerounaise de football, il y a un arbitre qui avait donné l'alerte, Christian Humeau, et il avait directement été sanctionné par la Fédération camerounaise de football parce que il se plaignait bien sûr des conditions de traitement des arbitres qui étaient devenus un tout petit peu catastrophique. Donc au-delà même de ces arbitres, il faut aussi rappeler que en dehors des arbitres régionaux, il y a des arbitres de l'élite qui couvrent aussi un malaise. Ils ont aussi des arriérés, mais n'osent pas manifester de peur d'être sanctionnés, de peur d'être suspendus par la Fédération camerounaise de football qui a pris l'habitude depuis d'avoir la main lourde sur un certain nombre de personnes qui essayent de lever le ton, qui essayent de lever la voix pour manifester leur mécontentement. Donc C'est une situation regrettable. C'est une situation regrettable. Et aujourd'hui, ces arbitres, je vais dire quoi, le non-paiement de ces arbitres pénalise toute une région qui a du mal à organiser un championnat régional. Des championnats régionaux qu'il faut rappeler sont devenus aujourd'hui des championnats au rabais parce que seules quelques régions parviennent justement à tenir et à organiser un championnat digne de ce nom. La plupart des régions aujourd'hui sont résolues à organiser des championnats en aller simple, c'est-à-dire juste quelques matchs pour toute une saison, pour une équipe qui se prépare, pour des équipes qui se préparent depuis plusieurs mois. Donc, si on continue de couvrir les manquements, les tares de cette administration, cette nouvelle administration du football camerounais, on va se réveiller avec un certain nombre de catastrophes. On va courir vers la catastrophe parce que à la fin, ce football-là aura perdu, aura beaucoup perdu, et il faudra beaucoup d'années pour rattraper les différents manquements observés. Donc, c'est vraiment dommage pour un football à qui on disait redonner sa grandeur. Tous les jours, les scandales se multiplient et la fédération qui devrait principalement s'occuper du football amateur aujourd'hui préfère d'autres combats, préfère s'agripper à l'équipe nationale qui est pratiquement l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en dehors de l'équipe nationale senior aujourd'hui, il faut dire que tous les autres démembrements du football camerounais sont pratiquement délaissés. Et on parle par exemple des catégories inférieures lorsque généralement elles se préparent pour des compétitions. C'est toujours des préparations tirées par les cheveux. On ne met pas suffisamment de moyens pour leur permettre justement d'avoir une préparation optimale. Les résultats des courses, toutes les équipes du Cameroun qui s'aventurent en une compétition finissent par une débâcle. Donc voilà un peu la situation qui est regrettable, les scandales qui se multiplient, et on se demande bien où ça va nous mener tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens finiront, tout le monde finira par reconnaître que il y a un malaise, que ce football va mal, que ce football n'est pas bien géré du tout, et qu'il faudra certainement prendre des mesures. Les dirigeants de club, les acteurs devraient prendre leurs responsabilités pour rentrer dans leurs droits en ce qui concerne l'organisation du football camerounais. Le malaise, il est généralisé. La chance avec l'exécutif actuel, c'est qu'avec le respect que tout le monde voit à Samuel Eto'o, personne n'ose lever le doigt, le ton, personne n'ose voir. On regarde par exemple au niveau des championnats d'élite, ça fait aujourd'hui 2 ans qu'ils n'ont pas perçu la totalité des subventions de l'État, et que la fédération ne reverse pas un certain nombre de primes. Il y a eu jusqu'à un problème sur les recettes de stade qui ne sont pas redistribuées au club. Donc le chapelet des manquements, il est vraiment long. Et on espère tout simplement que tout le monde prendra conscience et tout le monde fera ce qu'il est de son devoir pour que le football camerounais se retrouve sur de bons rails.
Grosse impasse pour le football camerounais. Merci beaucoup, William Tchango, pour toutes ces explications. William Tchango, qui se trouve actuellement aux États-Unis. Donc, avec le décalage horaire, ce n'était pas évident de pouvoir le réveiller à cette heure-ci. 10h38 sur Radio Mars, cap sur le Mali, sur Bamako et Drissa Niono. Bonjour, Drissa.
Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous.
Alors, quid de ce problème de grève des joueurs susceptibles de handicaper ou de boycotter le début des éliminatoires de la CAN pour les Aigles du Mali? C'est quoi cette nouvelle affaire?
Alors, il faut l'expliquer hein, pour que les uns et les autres puissent comprendre. C'est que le Mali devra recevoir le Ghana ici. Le Mali a joué contre le Ghana et le Mali a perdu à domicile. Ben après, il se trouve que le joueur devra quitter Bamako pour Johannesburg pour aller affronter le Madagascar. Une fois, on part chercher le joueur pour aller à l'aéroport, le voyage est annulé. Une seconde fois, on part chercher le joueur pour aller à l'aéroport, le voyage est annulé. Alors une troisième fois, lors d'une visite du comité exécutif, présidé par son vice-président, donc c'est le vice-capitaine des Aigles du Mali. Et alors, Diadé Sambasekou qui... Au nom de son groupe, prend la parole et dit ben, respectez-nous. Il ne faut pas qu'à chaque fois, on nous met en rassemblement et à chaque fois qu'on nous dit qu'on va voyager aujourd'hui, on ne voyage pas. Donc finalement, les Aigles ne voyagent que la veille du match. Pas de reconnaissance de terrain, pas assez de repos, ni rien. Donc avant le coup d'envoi, c'est le capitaine Amari Traoré donc, qui fait sortir un communiqué pour parler de ce voyage difficile en demandant aux dirigeants de leur écouter. Donc après le match, le Mali est tenu en échec 0-0 à Johannesburg. Et le sélectionneur est débarqué, est renvoyé. Ensuite, le vice-président fait sortir un communiqué pour dénoncer et mettre en garde encore les joueurs pour leur dire qu'ils sont obligés d'avoir un devoir de réserve. Bon, ce que les joueurs également n'ont pas compris. Après quelques jours, donc c'est ce communiqué qui sort. Et aussi, ils prennent leur position en disant que, voilà, au niveau de la fédération, il y a des problèmes. Au niveau des voyages, il y a des problèmes. Alors, si la situation ne change pas, ben nous aussi, on a le droit également de refuser de venir en équipe nationale. Voilà où ce problème est parti et là où on en est. En tout cas, pour l'instant, après ce communiqué partagé par plus de 30 joueurs évoluant à l'extérieur, donc tous des Maliens également. Donc c'est à l'unanimité que les joueurs aussi, surtout ceux qui étaient du rassemblement, à l'exception des deux joueurs locaux, il s'agit d'Aboubacar Diarra Senior et de N'Golo Traoré, tous les autres qui étaient de ce voyage ont publié et partagé l'annonce sur leur page ou Instagram, donc sur leurs réseaux sociaux. Pour l'instant, pas de réaction du côté de la Fédération malienne de football. On attend de voir où va donc aller cette affaire.
Je précise aussi que les derniers résultats du Mali ne sont pas encourageants au point où le Mali a baissé au classement FIFA.
Exactement. Donc, c'est la conséquence également de cette défaite à domicile 2-1 face au Ghana et ce match nul enregistré du côté de Johannesburg. Donc, les Aigles qui étaient 8e lors du dernier classement sont désormais 9e et qui étaient 44e au niveau mondial. Donc, perd de 6 places et se retrouve cette fois-ci en 50e position. En tout cas, la conséquence n'est pas déjà. Il n'y aura pas de conséquence quand même pour être à tête de poule lors du prochain tirage de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Donc, le Mali sera forcément tête de poule, donc on va connaître également ses adversaires donc ce 4 juillet, donc lors d'un tirage au sort qui est prévu exactement donc à Johannesburg.
Le tirage au sort qui est prévu effectivement début juillet. Merci beaucoup Drissa Niono pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine, on parlera peut-être davantage des JO et de la préparation notamment des Aiglons du Mali qui sont qualifiés pour le tournoi de football et également des autres participants maliens qui dans d'autres disciplines qui seront présents au JO de Paris. Cap sur la Côte d'Ivoire avec Elisabeth Gollet. Bonjour Elisabeth. L'actualité brûlante en Côte d'Ivoire est représentée par la non-accession d'un grand du football ivoirien qui a perdu sa place parmi l'élite, l'Africa Sport, avec des relents de scandale. Elisabeth, bonjour.
Bonjour Amine. Bonjour amis auditeurs de la Radio Mass. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur les ondes de la Radio Mass, l'une des plus grandes radios du continent africain. Un plaisir également de vous retrouver. En effet, Amine, c'est une grande première dans l'histoire du football ivoirien, notamment en ce qui concerne la montée en Ligue 1 d'une formation. Effectivement, une semaine après la fin de la saison, difficile de connaître la formation de la poule A qui rejoindra l'élite du football ivoirien. Ni l'Africa Sport National, le grand rival de la SEC Mimosa, ni l'ISCA, une jeune formation qui a déjà célébré sa montée, ne sait dans quelle catégorie elle évoluera la saison prochaine. En effet, suite à une réserve de la formation de Yamoussoukro FC contre ISCA, le match de la dernière journée ayant opposé ces deux formations est à rejouer. Une décision de la commission de discipline qui a été approuvée par la commission de recours. Il faut dire que beaucoup de choses qui ne sont pas à l'honneur du football ivoirien ont été entendues, ont été dites cette saison. Et la formation de l'ISCA a été au centre de nombreuses plaintes. Il y a entre autres des arbitres décriés, des matchs truqués dénoncés, la FIFA indexée, etc., etc. À ce jour, les observateurs du football ne sont pas au bout du suspense. C'est l'angoisse dans les camps de l'Africa Sport et de la jeune formation de l'ISCA, dont le président est traité de tous les noms, à savoir corrupteur, celui qui ne respecte pas les règles du jeu, etc., etc. À l'instar de la formation de l'ISCA, c'est l'angoisse également dans le camp de l'Africa Sport qui attend depuis 3 saisons de retrouver l'élite du football ivoirien. Il faut dire que la relégation et l'absence de l'Africa Sport en première division a fait perdre la saveur des duels, notamment le derby à SEC Africa, qui a alimenté pendant des décennies le football ivoirien. En tout cas, pour les observateurs, un retour de l'Africa Sport national en Ligue 1 mettra du baume au cœur des amoureux et des amateurs du football ivoirien. 9 athlètes représenteront la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques.
Bien évidemment, Elisabeth, on parlera des athlètes représentant la Côte d'Ivoire aux JO. Ils seront 9 au total, n'est-ce pas, Elisabeth?
9 athlètes représenteront la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris dans plusieurs disciplines, à savoir le taekwondo, l'athlétisme, le judo, l'escrime. Ces Jeux Olympiques de Paris, Amine, il faut le dire, ont quelque chose de particulier, un parfum d'ivoirien. Car vous le savez, hors des tatamis, des pistes d'athlétisme, 2 Ivoiriens, 2 légendes du football mondial, Basile Boli, ancien joueur mythique de l'Olympique de Marseille, et l'emblématique Didier Drogba, qui a fait rêver les supporters de l'OM également, ont fait partie des porteurs de la flamme olympique. Pour revenir sur les terrains de jeu, le terrain des jeux, les chances de la Côte d'Ivoire résident au taekwondo. D'abord avec Ruth Bagui, celle qui disputera la 3e fois d'affilée cette compétition avec 2 médailles de bronze remportées respectivement en 2016 et 2020. Celle qui a décroché sa qualification à prix d'or à l'Open de Croatie est une chance de médaille sûre pour la Côte d'Ivoire. Et avec elle, le grand champion Cissé Cheikh qui continue de faire rêver la Côte d'Ivoire avec sa médaille d'or olympique de Rio 2016. Il a, à l'instar de Ruth Bagui, obtenu sa qualification à prix d'or au Grand Prix de Manchester en Angleterre. Avec ces 2 taekwondoïnes, Amine, on compte aussi sur la Côte d'Ivoire, compte aussi sur l'équipe du relais 4x100 mètres féminin qui disputera ses premières Olympiades. Elle fait également rêver avec des sprinteuses comme Talou, les jeunes Cissé Mabundou, Jessica Gbayi et Muriel Aouré. Au 100 mètres et 200 mètres, la Côte d'Ivoire a également des chances avec Marie-Josée Talou, celle qui continue de rêver et qui espère cette année concrétiser son rêve d'accrocher une médaille à son cou, après être passée à 3 reprises au pied du podium de cette compétition. Alors, pour y parvenir, l'État de Côte d'Ivoire a remis la bagatelle de 450 millions de francs CFA aux athlètes pour leur préparation. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire, qui compte sur deux de ses vaillants, la Côte d'Ivoire a remis le drapeau ivoirien à Cissé Cheikh et à Marie-Josée Talou. Ce sont les 2 porte-drapeaux de la Côte d'Ivoire. Et pour ces Jeux Olympiques, il faut dire que la Côte d'Ivoire rêve grand. La Côte d'Ivoire rêve de revenir à nouveau avec des médailles au cou des athlètes.
Et bravo à la Côte d'Ivoire pour ce qu'elle fait au niveau des JO, notamment dans les arts martiaux avec SEC. On va parler de... Actualité en République démocratique du Congo avec Michel Thauveau. Bon, il y a déjà les dates de la CAN et il y a surtout la Coupe de la République démocratique du Congo qui a été remportée par l'AS Vita Club et notamment par un compatriote, un ex-international marocain sur le banc de touche. Bonjour Michel Thauveau, comment ça se passe du côté de Kinshasa? C'est toujours un plaisir de t'accueillir.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Hein. Merci, c'est encore avec un réel plaisir que je m'en vais justement vous conter, on va dire, l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Mais on va faire un premier crochet hein, avec cette actualité en rapport avec voilà la date ou les dates fixées par la Confédération africaine de football concernant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler chez vous, bien évidemment. Voilà, du 21 décembre au 18 janvier, voilà, c'est quand même assez difficile. Hein, voilà, ce sera la première fois qu'une CAN va se disputer au mois de décembre. Hein, ça ne sera pas véritablement facile pour les voilà les équipes entre guillemets de l'Afrique subsaharienne hein, parce que en cette période voilà de l'année au niveau des chevaux là-bas donc il fait extrêmement froid, ça risquerait quand même voilà d'être assez compliqué. Bon, mais c'est une date quand même hein, on va se faire avec. On verra dans la mesure du possible comment les équipes, entre guillemets, subsahariennes vont se comporter. Ce sont les dates qui ont été choisies justement par la Confédération africaine de football. Donc, on va s'y faire avec. Mais l'autre actualité, c'est ici en plus démocratique du Congo. Hein, c'est le voilà la Coupe du Congo. Ça doit faire certainement plaisir à vous, Marocains, parce que un de vos compatriotes a remporté la Coupe du Congo ici, donc c'est Abdeslam Ouadou, voilà, entraîneur de l'ASV Club, hein, donc qui a remporté voilà la Coupe du Congo il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est quand même bien. Il est arrivé au milieu de la saison, hein, donc il a trouvé déjà une équipe avec des joueurs qui étaient déjà recrutés. Hein, Vecler avait manqué son recrutement. Vecler a terminé sixième seulement du championnat national, hein, de la deuxième phase du championnat national. Je ne cessais de vous le dire lors de mes interventions et que voilà la seule possibilité pour répondre une place en Coupe d'Afrique, c'était justement à cette Coupe du Congo qui donne justement la possibilité à l'ASV Club d'accrocher une place en Coupe de la Confédération la saison prochaine. Donc c'est une saison à sauver. Donc là maintenant, l'équipe est en train de recruter à nouveau. On l'espère en tout cas avec la bénédiction justement du staff technique qui sera conduit la saison prochaine par Abdeslam Ouadou, hein, qui a fait un travail voilà assez on va dire bon. Voilà, parce que il n'a pas eu voilà tous les moyens possibles justement hein, pour recruter le joueur quand il est arrivé. Mais bon, il aura maintenant la possibilité de faire une équipe avec le joueur qu'il aura recruté et on verra dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il va faire la saison prochaine. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Hein, donc, Abdeslam Ouadou ainsi qu'à l'AS 20 Club avec un nouveau comité qui est arrivé, avec un nouveau sponsor surtout. Hein, voilà, il fallait quand même le souligner. Hein, c'est un sponsor turc. Voilà, on ne dira pas son nom pour cause de publicité, mais c'est un sponsor turc qui est spécialisé dans la construction. Hein. Vous avez certainement vu l'aréna du Rwanda. C'est cette compagnie qui l'a construite. Vous avez vu le stade Abdoulaye Wade de Dakar au Sénégal. C'est cette entreprise turque qui l'a construite. Et cette entreprise turque qui est en train de construire également ici à Kinshasa l'aréna de Kinshasa. Et puis, elle est en train de réhabiliter un certain bâtiment public ici à donc en République démocratique du Congo. Donc c'est ce sponsor là qui est sponsor de l'AS V Club hein, qui a mis justement les moyens qui permettent maintenant à l'AS V Club de recruter. On espère que ça sera des recrutements judicieux, pas comme ceux de la saison dernière hein, justement qui ont causé énormément de problèmes à l'équipe avec l'ancien comité et voilà qui avait même fait en sorte que V Club soit interdit de recrutement à un certain moment, mais la décision de la FIFA vient d'être levée. Donc, V Club est autorisé à nouveau à recruter et les recrutements ont déjà commencé. Il y a déjà cinq recrues qui ont été recrutées à cette déjà depuis la depuis quelques temps maintenant. Donc, ils ont été présentés. Ils commenceront certainement les entraînements dans les jours qui vont à suivre et on verra dans la mesure du possible quel est le visage que cette formation de l'ASV Club va nous proposer la saison prochaine. Voilà, Amine Birouk, hein, merci infiniment de m'avoir accordé justement à ce petit temps.
Merci infiniment, mon cher Michel Taubo, pour toutes ces explications et surtout félicitations à l'ASV Club pour ce nouveau titre. On va essayer de presser le pas pour une dernière correspondance, si on a la possibilité, bien évidemment, de pouvoir trouver sur place à Ouagadougou notre ami Jean-Modeste Ouedraogo pour parler un peu du ressenti de l'opinion publique burkinabé par rapport aux nouvelles dates de la CAN. Je rappelle, 21 décembre 2025, 18 janvier 2026, c'est un moindre mal par rapport à ce qui était proposé auparavant, surtout que la FIFA est venue, bien évidemment, placer en milieu de saison, plutôt en milieu d'année, en fin de saison, sa fameuse Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. Aujourd'hui, on a eu quand même de nombreuses correspondances et de nombreux sons de cloche concernant cet événement et les décisions du comité exécutif de la CAF qui s'est réuni, bien évidemment, hier de façon télématique. Le président de la CAF était à Johannesburg et les autres membres étaient chacun dans leur pays. Mais la résolution est importante et surtout, il ne fallait pas différer davantage les dates des CAN féminines et masculines. Faut qu'on soit quand même paré et qu'on passe du stade de l'à-peu-près au stade de dates précises, de rendez-vous qui sont consignés dans le calendrier international et que la CAF ne soit pas le maillon faible des confédérations affiliées à la FIFA. Alors voilà, j'ai l'impression qu'on va quitter nos auditeurs avec ce dernier son de cloche, celui de notre ami Michel Taubo, qui se trouvait au Congo démocratique, à Kinshasa. On a eu bien évidemment des escales à Boïkon, Bénin, à Dakar au Sénégal, à Yaoundé au Cameroun, à Tunis, à Abidjan, à Bamako et à Kinshasa. Ce sont de très belles étapes qui nous ont permis de faire un joli tour d'Afrique, comme tous les samedis. On vous remercie pour votre fidélité. Et on se donne rendez-vous samedi prochain, si vous le voulez bien. Je vous laisse dans quelques minutes, de manière inhabituelle, avec la programmation de l'émission Al-Khaïriyat, consacrée au football féminin. Euro oblige, on avance bien évidemment l'émission Al-Khaïriyat, mais aussi l'émission Massouad dédiée au football amateur à 11h30 midi. Bonne fin de programme, bon week-end et bonne suite des programmes plutôt en compagnie de Radio Mars. Alors quoi, une dernière étape peut-être? Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose ou on n'a pas? Alors, voilà, il va. Voilà, allez. On va quand même pas bouder notre plaisir avant de rendre l'antenne, puisqu'on va avoir en post-scriptum notre ami Jean-Modeste Ouedraogo. Bonjour Jean-Modeste.
Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mass.
Voilà, tu seras en post-scriptum parce qu'on a très peu de temps devant nous, mais je vais te faire réagir en moins de deux minutes concernant les nouvelles dates de la CAN. Comment